France Culture.
Salle des archives. Mathieu Garrigou-Lagrange.
France Culture, salle des archives. Libé, un roman vrai. Chapitre 5. Serge Julie, le dernier des Manitou. Dans les premiers épisodes, nous avons décrit la naissance du journal Libération sous l'égide de Jean-Paul Sartre, son premier directeur. Nous sommes allés chercher les sources culturelles et intellectuelles qui avaient permis à ce premier journal d'émerger, en particulier mai 68 et le maoïsme. Puis nous avons raconté le tournant de 1981 avec la création d'un nouveau Libération, plus branché et plus professionnel après la rupture avec les gauchistes. Mais pour bien comprendre cette deuxième époque de Libération, il faut préciser qu'elle est également portée par la vision d'un homme. C'est pour cette raison qu'il faut s'arrêter sur un personnage en particulier, comme nous allons le faire au cours de cet épisode. Son nom, vous vous en doutez, c'est Serge Julie.
Je ne pense pas qu'il y ait la place à un quotidien, mais je pense qu'il peut se la faire.
Libé, un roman vrai.
Créer un quotidien national de ce genre, à notre époque, relève, vous le savez, apparemment de l'utopie.
Une série de Mathieu Garrigou-Lagrange, réalisée par Delphine Lemaire. Attachée de production, Lily Corner.
J'ai eu la chance de me retrouver assis un soir à côté de Serge Julie à une table de restaurant. C'était à l'occasion d'une rencontre sur la révolution des œillets, le mouvement de 1974 qui a ramené la démocratie au Portugal après une dictature de 50 années. Je dis bien que c'était une chance et je le dis sans flagornerie, car ce qu'il m'a raconté ce soir-là de ce qu'il avait vécu au Portugal a été absolument passionnant. Celui qui était en 1974 rédacteur en chef de Libération a en effet passé toute une année dans ce pays pour suivre les événements qui secouaient la jeune démocratie. Cet épisode portugais de Serge Julie me semble symptomatique de son parcours de journaliste, d'une liberté dans le travail qui fait rêver, à la recherche d'une nouvelle façon d'appréhender le réel, et c'est de ce parcours d'homme et de journaliste que nous allons parler à présent.
Aqui posto do comando das Forças Armadas, pretendendo continuar a informar o país.
Quand la révolution éclate au Portugal, Libération a 2 ans d'existence. Serge Julie en est le rédacteur en chef et Jean-Paul Sartre le directeur. Avec Simone de Beauvoir, tous les trois partent pour Lisbonne assister à ce moment historique, la dernière révolution communiste de l'histoire. Tous les trois sont au cœur du mouvement. Sartre rencontre les insurgés, répond aux questions et affirme surtout qu'il n'a pas de leçon à donner quand on l'interroge sur la suite à donner à la révolution. Une fois Sartre et Beauvoir repartis en France, Serge Julie décide de rester au Portugal. Il continuera bien d'être le rédacteur en chef de Libération, mais à 2000 km de Paris. À l'époque, on n'appelait pas ça du télétravail, on appelait ça de l'autogestion. Pendant un an, de mai 1974 à mai 1975, Julie couvre les événements qui suivent le renversement du régime et la naissance difficile de la démocratie portugaise. Il le fait pour son journal, mais aussi en participant au tournage d'un film, Viva Portugal. L'intention de ce film est de montrer la façon dont le peuple portugais vit ces mois d'intenses bouleversements. D'autres pourront bien se charger des questions politiques, de la guerre entre les partis qui prétendent gouverner, de la question de savoir s'il faut un régime communiste ou une social-démocratie. Julie et la petite équipe à laquelle il appartient se concentrent, lui, sur les gens. Quand le film sort, en septembre 1975, Serge Julie est rentré à Paris. Il est alors invité aux après-midi de France Culture.
Radio France, après-midi de France Culture.
Oui, au fond, ce n'est pas tellement un film chronologique ou historique, c'est plutôt le film d'un sentiment, d'une prise de conscience, enfin, d'une sensation d'être au Portugal de cette façon, en
ben,
ce moment.
Je réponds là encore, je m'excuse, mais je pense qu'il y a deux propos. Le premier propos, il était de montrer un peu des Portugais. Alors, compte tenu que le Portugal, on fait, surtout en France, mais je pense que c'est propre à l'étranger, il y a beaucoup de discours idéologiques sur le Portugal, beaucoup de... C'est des prises d'opposition, on est pour, on est contre, on est avec Soares, on est contre Soares, on est pour Cunhal, contre Cunhal, enfin bon, c'est... Bref, le peuple, enfin les gens qu'on rencontre au Portugal sont très peu présents. À propos du film, c'était de prendre un peu des officiers, puisqu'ils ont, ils ont joué un rôle très actif, des officiers du MFA, qui ils étaient, enfin, un peu les voir fonctionner, puis des gens, bon, en train de construire.
Ce que vous appelez des historiettes, c'est-à-dire pas les grands événements politiques.
Oui, donc
mais
faire un peu
de
la chronique, un peu, oui. Un peu de la chronique.
Ce que Julie m'a expliqué le soir où je me suis retrouvé assis à côté de lui, c'est ce journalisme de terrain qui racontait l'histoire des gens. Un journalisme de la chronique, comme il le dit dans l'archive. Un journalisme qui s'intéresse à l'expérience vécue et pas seulement aux grandes idéologies. Un journalisme inspiré du nouveau journalisme américain qui se concentre sur les gens et les histoires qui leur arrivent. Le lendemain de ce dîner, Serge Julie devait prendre la parole devant des étudiants de l'école de journalisme de Bordeaux. Le sujet était précisément la révolution des œillets et je m'attendais à ce qu'ils redisent, devant eux, l'histoire de cette aventure passionnante qu'il avait vécue et qu'il m'avait racontée. Mais quand l'animateur lui a donné la parole, il s'est mis à parler de tout autre chose et très peu du Portugal. Il n'a rien dit de son épopée de l'année 74-75 et c'était franchement un peu déroutant étant donné l'immense matière qu'il avait sous la main. C'est pourquoi j'ai eu du mal à le comprendre. Et puis rétrospectivement, je crois que j'ai compris, même si je n'en suis pas sûr. Je pense qu'il a simplement fait la même chose que ce qu'il avait fait au Portugal, c'est-à-dire qu'il a fait ce qu'il voulait. Au Portugal, en 1974, il avait décidé de rester durant un an. À Bordeaux, en 2024, devant des étudiants, il avait décidé qu'il parlerait de ce dont il aurait envie de parler, même si ça n'était pas tout à fait le sujet de la table ronde. Peut-être que c'est cela, Serge Julie, un homme qui vit dans l'instant et qui agit dans la mesure du possible selon son bon plaisir. Finalement, ça n'était pas si incohérent avec les slogans de mai 68. D'ailleurs, Julie n'était-il pas rétif à toute contrainte imposée? N'était-il pas, selon ses propres mots, un libéral libertaire? Serge Julie parle très peu de lui-même. Il y a donc très peu d'archives dans lesquelles il accepte de se livrer. Et quand il le fait, c'est presque toujours pour évoquer ses souvenirs de militantisme et de politique. À France Culture, il existe une émission dont le principe est pourtant de raconter sa vie, ce qui fait que, quand on participe, logiquement, il faut un minimum parler de soi. Cette émission, c'est À Voix Nue, et Julie avait accepté d'y raconter ses souvenirs à Éric Eschiman. C'était en avril 2012.
Alors je voudrais qu'on commence tout de suite par cette question. Pourquoi cette discrétion? Pourquoi ce silence? Est-ce par pudeur, par peur, par indifférence?
Il y a beaucoup de questions dans votre question. Alors, si c'est pourquoi j'ai pas écrit mes mémoires, d'une manière ou d'une autre, c'est d'abord parce que j'ai peu de mémoire. Et j'ai peu de mémoire parce que je suis très au présent, ce qui m'a sans doute donné une appétence, des qualités, en tout cas pour faire un quotidien. Un quotidien, c'est au présent. Il est fini le soir. C'est terminé, on se projette déjà dans le lendemain et c'est un rythme qui me convenait parfaitement, en tout cas du point de vue de mon fonctionnement. Et donc j'ai assez peu de mémoire sur ce qui m'est arrivé, les rencontres que j'ai faites, etc. Je serais absolument incapable d'écrire mes mémoires. J'admire beaucoup les gens qui font ça. Je pense d'ailleurs que comme Casanova, quand même le plus célèbre des mémorialistes, il les invente en partie, mais voilà.
Éric Eschiman, vous êtes journaliste au Nouvel Obs après l'avoir longtemps été à Libération. Vous êtes notamment l'auteur du livre Libération et ses fantômes publié au Seuil. Et c'est donc vous qui avez fait cet entretien à voix nue dont on vient d'entendre un premier extrait. Quel souvenir avez-vous précisément de cette émission avec Serge Julie?
On l'entend dans cet extrait, c'est pas un animal facile. C'est quelqu'un qui ne parle pas facilement. C'est très très beau qu'il dise, très émouvant qu'il dise comme ça, j'ai pas de mémoire. Il y a aussi des idiosyncrasies.
Donc vous le croyez quand il dit ça, c'est pas une façon d'éluder la question?
Non, c'est pas une coquetterie. Oui oui, je le crois et peut-être même qu'il en souffre d'ailleurs. Et Serge a cette espèce de rondeur, de lenteur, en même temps qu'il était quelqu'un d'extrêmement vif et puissant. Et du coup, ça donne. Il n'est pas dans cette réplique qui part dans tous les sens. Voilà.
Qu'est-ce que vous pensez de cette hypothèse que, au fond, ce qui comptait pour Serge Julie et ce qui compte encore pour lui aujourd'hui, c'est la liberté, c'est-à-dire de faire un petit peu ce qu'il veut et en même temps de laisser libre les autres personnes autour de lui. Est-ce que ça lui correspond ?
Ça lui correspond tout à fait. Et quand il dit qu'il était libéral, libertaire, il dissimule pas, Serge Julie, les choses. Hein. Il parle cash, il parle peu, il parle cash. Il cherche pas à séduire et à enrober par la parole. Et donc, comme journaliste à Libé pendant 20 ans, et je pense que mes collègues peuvent en témoigner, on avait une totale liberté. Et il y avait même un encouragement. Je me souviens qu'au début, moi, je disais, bon, alors là, il faut que je fasse quoi? Et mon chef de service m'avait dit, mais tu fais ce que tu veux. Ce qui compte d'abord, c'est ton envie.
Serge Julie est né en 1942, en pleine nuit, a-t-il écrit, dans un Paris sous couvre-feu, au milieu des patrouilles allemandes. L'histoire de ses parents relève davantage de l'énigme que du conte de fées. Louise est fortunée, ses parents donc, s'étaient rencontrés à un bal à Saint-Malo. Lui est un bourgeois et elle, une paysanne, qui devient ensuite couturière. De cette rencontre naît un enfant, en 1924, que le père ne reconnaît pas car ses parents ne supporteraient pas une pareille mésalliance. Le garçon en question, c'est le frère de Serge Julie.
Il y avait un peu de lutte de classe à la maison, entre la bourgeoisie, l'ouvrière, cachée, avec des conditions assez précaires. Voilà. Il se trouve que mon père a été mobilisé, a fait les deux guerres, fait partie de cette génération qui a fait la guerre de 14. Il a été mobilisé en 17. Et il a fait la deuxième, il a été mobilisé évidemment pour la deuxième guerre, la drôle de guerre dans l'artillerie, et il a été fait prisonnier, retour de camp de prisonnier en janvier 42, et je suis né en décembre. Deuxième accident, mon frère était un accident, moi je suis encore un accident, donc la vie a continué comme ça, un peu semi-clandestine. Pendant une dizaine d'années, et puis la famille de mon père a disparu, et finalement, nous sommes allés vivre tous ensemble.
Éric Hichimann, que vous inspire cette archive ?
Alors, j'avais oublié le détail du père qui a fait la Première Guerre mondiale. Alors, c'est saisissant, on est en 2025, Serge Julie est redevenu éditorialiste à Libération, si je ne me trompe pas, en tout cas, il y était il y a très très peu de temps. Donc c'est un commentateur du monde de 2025 et son père a fait la Première Guerre mondiale. Donc on embrasse 125 ans comme ça, parce qu'évidemment ce que son père a été se dépose, enfin je fais un peu de psychanalyse facile, mais donc ça c'est la première chose.
Serge
vient d'un monde ancien.
Et il y a le sens de l'histoire chez lui.
Absolument. Ça donne effectivement sûrement une sensibilité à l'histoire, mais avec beaucoup de trous. Serge, c'est aussi quelqu'un qui a disparu, qui a cessé d'écrire à un certain moment à Libé, qui est revenu, qui a redisparu, puis qui a quitté Libé, et là qui réapparaît. Parfois, j'ai l'impression qu'il y a des vagues comme ça chez Serge, je vais y arriver, et on l'en sentait à Libé. Et d'ailleurs, le fait que ça prenne ces formes-là, Libé 1, Libé 2, Lyon Libé, Libé 3, cette envie de recommencer à zéro, de réinitier, on dirait aujourd'hui, de faire un reset, ça, je crois que c'est assez propre à Serge. Mais bon, c'est une interprétation expérimentale.
Dans son dictionnaire amoureux du journalisme, Serge Julie raconte l'atmosphère qui règne chez lui durant son adolescence. Ses parents ne se livraient jamais sur eux-mêmes, explique-t-il. Il parle de l'atmosphère spongieuse des non-dits, de ce père qui transmet peu, sauf peut-être son amour des journaux.
Mon père était de gauche. Il avait un mode de vie qu'il n'était pas forcément, mais il s'est présenté comme candidat radical pour les élections de Front Populaire. Il a été battu, mais
à Paris.
Ouais. Et c'était un laïc, athée, mathématicien de formation. Mon père lisait plusieurs quotidiens par jour. C'était d'abord une époque où François avait plusieurs éditions, avec 9 éditions, et donc fonctionnait un peu comme une radio avec des flashs permanents. Donc ça, c'était François. Mais mon père avait l'idée que pour se faire une opinion valable, il fallait lire plusieurs quotidiens. Et donc, il consommait énormément de journaux. Et donc, moi, j'ai tout le temps vécu, tout le temps, à partir de 9-10 ans, j'ai tout le temps vécu avec plusieurs quotidiens par jour. Et ça m'a beaucoup marqué, manifestement.
Manifestement.
On sent chez Julie, Eric Hachiman, un amour viscéral de la presse qui fait peut-être de lui le dernier grand patron de presse, le dernier des grands Manitou.
Ça, c'est absolument sûr. Après, le moule a été cassé. Le patron de presse, c'est celui qui réunit deux faces du métier qui aujourd'hui sont disjointes et visiblement pour toujours. Ce qui est d'un côté le rédactionnel, de l'autre côté le boulot d'impression, de distribution, de commercialisation, les finances, le côté ce qu'on appelle aujourd'hui administration, direction générale. Et la figure emblématique de ça, c'était Hubert Mauvemery au Monde, et où le choix l'achat de la rotative dès 1944, où on s'installe, etc., c'est très important.
Donc le côté entrepreneur était entrepreneur très important pour lui.
Et Serge Julie était comme ça. Et moi, ce que j'avais retenu, c'est que c'était aussi important comme geste journalistique que le contenu d'un édito. Qu'un journal, c'est tout ça à la fois. C'est à la fois les choix techniques que vous faites, le mode de distribution, les horaires que vous choisissez, la pagination, le grammage, l'encre, alors attention, l'encre, il faut pas qu'elle reste dans les doigts, etc. Que, du coup, aussi la maquette, la construction de la couve, le choix de l'iconographie, etc. Et jusqu'au contenu et au positionnement politique.
Ce qu'il dit aussi dans l'archive, c'est que son père était de gauche, mais qu'il avait un mode de vie de droite. Là aussi, est-ce qu'on peut pas faire une analogie avec Serge Julie ?
Je connais pas le mode de vie personnel de Serge Julie. Je peux pas en dire plus parce que je l'ai pas vu dans sa vie privée, mais à Libération, Serge aimait afficher des signes extérieurs de patronitude, du style patron.
C'est quoi ça, le style patron ?
Et ben, par exemple, c'est le cigare. Voilà. Et il en jouait, moi j'avais l'impression, avec une certaine délectation.
Provocation.
Délectation, en sachant que ça nous faisait probablement bizarre, mais pas provocation, parce que c'était pas méchant, c'était pas dédaigneux, mais c'était quand même un peu, voilà, moi je suis là, c'est mon bon plaisir, et mon bon plaisir, c'est aussi de vous prendre à rebrousse-poil. Il y a même probablement eu chez lui une certaine fascination pour le personnage de Robert Hersant.
Je sais qu'à l'époque, donc un patron de presse très important qu'on appelait le papivore.
Qui était le patron du Figaro, enfin le propriétaire du Figaro. Et je sais qu'à l'époque, c'est des choses qui avaient frappé des gens à Libération, un petit peu une similitude. Je sais pas si lui en a eu conscience délibérément. Il me semble me rappeler qu'il y avait même eu une rencontre entre eux. Mais en tout cas, je pense qu'il a aimé flirter avec ça. Mais ce qui est fascinant avec Serge, c'est qu'il était ça. Et autre chose, encore une fois, c'est l'homme qui avait pu arrêter d'un coup d'écrire des éditos, abandonnant une place qui lui donnait énormément de pouvoir. Donc il était ça, mais pas que.
L'atmosphère de coton ouaté, pesante, qui fait donc le quotidien des Julie, a sans doute donné envie à Serge de passer le plus de temps possible dehors. D'autant plus que dans les rues parisiennes de ces années 60, il se passe beaucoup de choses, on n'a pas le temps de s'ennuyer. On retrouve alors Serge Julie dans toutes les manifestations, et ça n'est pas une expression. Il les fait toutes les manifs, depuis ses 15 ans jusqu'à ses 26 ans, y compris celle du métro Charonne, même s'il se trouvait dans le cortège et pas dans la station elle-même.
Il y a 8 morts hein, quand même, donc... qui n'ont pas été tués, contrairement à ce qu'on dit, contre les grilles du métro.
De la station Charonne,
cette station n'a jamais été fermée. Mm-hmm. Donc ils ont été tués...
Un coup de matraque. Un coup de bidule, puisque c'est le terme.
Milieu, y compris dans la station, mm-hmm. y compris sur les quais de la station. Donc
les manifestations, c'est extrêmement violent.
Alors, je vous remercie de dire ça, parce que quand on évoque cette histoire... On n'imagine pas la violence
de cette époque. C'est-à-dire, nous vivons dans le monde des bisounours aujourd'hui. Hein. Toute la société française, y compris les problèmes que nous pouvons avoir, c'est bisounours. Parce que les manifestations sont extrêmement violentes.
La répression.
La presse, il ne faut pas oublier qu'on est encore sous le régime de la censure. C'est-à-dire qu'il y a des pages qui ne sont pas imprimées dans les journaux. Il y a des caches noires, plus les attentats de l'OAS.
Après le lycée, Julie rate le concours d'entrée à HEC et s'inscrit en fac d'histoire. Dans le même temps, il s'engage à l'Union des étudiants communistes, qui sont assez rebelles vis-à-vis de la direction du PCF. En fait, Julie n'a jamais aimé l'URSS, il est même viscéralement un anti-stalinien. Après 68, qu'il vit intensément, il écrit un brûlot avec Alain Gesmard intitulé « Vers la guerre civile ». Et il participe à la création d'un groupuscule maoïste, la gauche prolétarienne. C'est l'époque où il fait des happenings politiques, dont le plus célèbre est d'avoir pris la parole à un concert des Rolling Stones en faveur du statut politique de militants emprisonnés. Mick Jagger et les membres du groupe étaient de son côté. Ensuite, c'est la création de l'agence de presse Libération qu'on a déjà raconté, puis du journal Libé en tant que tel.
Et il y avait cette malédiction de... que vous a jeté, entre guillemets, Marcel Jouhandeau en 68, qui disait « Rentrez chez vous, dans 10 ans, vous serez tous notaires ». Notaires, non.
Il n'y a pas énormément de
notaires. Notaires, non, mais notables, quand même, un peu. Est-ce que vous acceptez ce jugement, ce constat, c'est-à-dire d'occuper des situations sociales bourgeoises?
C'est un procès qui m'a été fait dès
beaucoup,
le début.
Beaucoup, hein,
beaucoup.
Oui,
alors,
oui. Donc, des soins. Dès 73.
Donc dès que on a de la visibilité sur le plan social, que on occupe des fonctions dans la presse ou dans l'édition ou dans le champ culturel ou associatif, on devient un notable. C'est la France est un pays qui adore les notables, puisqu'on a, je sais pas, la moitié des Français sont présidents, donc ils adorent être présidents. C'est un peuple où on adore les présidents. Le Parti Socialiste compte, je sais pas combien, de dizaines de milliers de présidents.
Éric Eschiman, on entend dans l'archive qu'il tape un petit peu comme ça avec sa main, doit être un petit peu énervé par la question que vous lui avez posée. Est-ce que vous pensez qu'il souffrait un petit peu ou qu'il était agacé par ce procès en bourgeoisisme qu'on lui a fait au fond toute sa vie?
Eh ben, en réécoutant l'archive, oui. Je me souvenais pas de ces traces d'agacement. Et quand même, il botte en touche, hein, quand il dit que la France, la moitié des Français sont présidents, la moitié des Français n'étaient pas directeurs de Libération. Donc, il noie son cas dans... oui, je pense que ça l'agaçait, oui. Mais je pense que c'est le maximum d'expression de son agacement. Voilà.
C'était quelqu'un de flegmatique. C'est quelqu'un toujours de flegmatique.
Extrêmement flegmatique. Et c'est très agréable.
En 1986, l'écrivain et militant gay d'extrême-gauche Guy Okangem publie un livre sous forme de lettre ouverte intitulée « À ceux qui sont passés du col Mao au Rotary ». Il est invité pour en parler sur le plateau d'Apostrophe le même soir que Bernard Tapie. Détail important, Okangem a été journaliste à Libération.
Alors, Serge July, qui a été votre patron à Libération, alors voilà, vous lui taillez un sacré costume. Hein, ça... Oh là 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 là, oh, il y a 10 pages. Qu'est-ce que vous lui mettez? C'est terrible, et, hein.
Oui.
Mais
bah, est-ce que c'est mérité ou non, voilà.
Vous devez être brouillé avec lui.
J'en ai aucune idée, j'ai pas revu Serge depuis assez longtemps, mais de fait.
Mais qu'est-ce que vous lui reprochez?
C'est très
simple. En quoi est-il renégat, lui?
Alors voilà, en quoi Libération est-il renégat depuis la période de 73 à maintenant? Si vous lisez un quotidien comme Libération, vous constatez que tout ce qui a été, on peut dire, l'axe de la politique de Libération, ce qui a fait sa célébrité d'ailleurs, c'est-à-dire la contestation de toutes les valeurs, c'est-à-dire la lutte aux côtés des mouvements minoritaires, qu'ils soient d'ailleurs du féminisme, du mouvement homosexuel, des mouvements du tiers-monde, de tous les mouvements qui à l'époque représentaient la contestation. Cette position-là est définitivement abandonnée. Lisez Libération aujourd'hui. Libération aujourd'hui est un journal extrêmement bien fait, si l'on veut, mais dont l'axe est la défense de la hiérarchie du pouvoir, la défense dans le domaine économique des formes, disons, d'entreprise très proches de ce que Bernard Tapie défend également. D'ailleurs, je crois que Bernard Tapie et Libération ne sont pas très loin aujourd'hui. Dans le domaine militaire, c'est la défense de l'intervention au Tchad, par exemple. C'est systématiquement la défense des positions les plus extrêmes à l'intérieur même de l'étatisme ou du respect des valeurs établies.
Éric Eschiman, j'ai choisi cette archive notamment parce qu'il y est question de Bernard Tapie, que Bernard Tapie est sur le plateau d'Apostrophe ce soir-là. Et Tapie était ami avec Serge Julli, tout comme Jacques Séguéla, le publicitaire célèbre pour avoir dit qu'on a raté sa vie si on n'a pas une Rolex à 50 ans. Qu'est-ce que vous pensez de cette proximité et qu'est-ce qu'elle nous dit de Serge Julli ?
J'en pense qu'elle est, c'est un fait. Quand on était journaliste à Libé, c'était agaçant. Mais je pense à l'époque, ça nous amusait. Moi, jamais, je suis arrivé plus tard et j'avais pas l'histoire de Guggen Game. J'avais pas cette colère. Je pense que ça nuit peu à peu au journal. Le moment où Libération se met à publier de la publicité. En 82, Serge Julli fait un édito en disant « Ce n'est pas nous qui avons changé, c'est la publicité qui a changé. »
Autrement dit, la publicité est devenue intéressante.
Intéressante, créative, etc. C'est vraiment de la casuistique.
Serge Julli a introduit dans Libé une rubrique intitulée « Les gens ». Autrement dit, la traduction française de « people ». Il a favorisé un journalisme de portrait, rendu emblématique par celui de la dernière page du quotidien, le fameux portrait de Libé, très écrit et souvent acide. Lui-même fréquentait beaucoup de monde, des people de la politique et du spectacle, tout aussi bien que du monde des affaires. Il lui arrivait souvent de revenir à la rédaction avec des informations glanées dans les dîners en ville.
De temps en temps, à la conférence de rédaction du matin, il arrivait avec son petit carnet. Il avait fait des déjeuners ou des dîners la veille, parce qu'il a adoré le terrain et les gens, mais il aimait aussi les rencontres un peu mondaines, de puissance à puissance. Et il revenait avec des tas d'infos sur le parti au pouvoir, sur un livre qui allait faire du bruit, sur quelque chose qui se passe dans un ministère. Il disait « Ah, il y a ça, il y a ça, il y a ça ». Je me souviens qu'une fois, il avait dit « Bon, il me faut deux pages sur les banques arabes à Paris pour demain après-midi. » Bon, voilà. Puis,
parce qu'il avait dîné
parce que
la veille.
Parce qu'il avait dîné, puis il y avait
une petite actualité.
Voilà, il y avait une petite actualité. Il s'était dit, tiens, bon, il avait des idées. Bon, et puis, on ne l'a pas fait. On l'a fait une semaine plus tard. Et ce n'était pas grave.
Donc, voilà, il pouvait dire, faites ceci. Voilà, désintéresser du fait que c'était fait ou non. Voilà. Ou en tout cas, laisser libre le fait que ce soit fait ou que ce ne soit pas fait.
Ce qu'il aimait, c'était mettre des idées dans le circuit. Et de l'énergie, il avait de l'enthousiasme. Il pouvait dire, ah, ça, c'est vraiment formidable. Mais il n'était pas du tout tatillon, il n'était pas dans le contrôle. Alors, ça pouvait, de temps en temps, on pouvait se dire qu'il était un peu pas assez présent. Mais c'était très agréable. C'était un écrin formidable, la Libération, pour un jeune journaliste.
Figure de la presse française, Julli devient un éditorialiste, invité des plateaux de télé. Il a notamment officié durant des années auprès de Philippe Alexandre dans les émissions politiques de Christine Ockrent, au point de devenir une caricature récurrente des guignols de l'info sur Canal+.
Je crois que c'est clair, un bon débat, c'est un débat qu'à début.
Je suis d'accord avec Serge, il faut qu'il y ait des chips et puis des olives. Hein, Christine, comment t'appelles des olives avec des trucs qui piquent au milieu?
Et un bon débat, faut qu'il y ait un milieu, y compris une conclusion.
Voilà, des péricules pour le développement et surtout en conclusion...
Tac!
Tu fais péter!
Qu'est-ce que c'est drôle? Je pense qu'à un moment, le personnage lui a un peu échappé. Et je pense que c'est comme le cigare tout à l'heure. Je pense que ça ne devait pas lui déplaire, même si, en même temps, de temps en temps, ça devait un peu le coincer. J'imagine qu'il n'a jamais rien dit. Je n'imagine pas du tout faisant pression sur qui que ce soit pour dire « arrêtez cette marionnette ».
Après 3 décennies à la tête de Libération, Serge Julli s'en trouve écarté par Édouard de Rothschild, l'actionnaire qu'il avait lui-même fait entrer au capital. Éric Eschiman, comment Julli a-t-il vécu ce départ forcé, plus ou moins, de Libération ?
Je me souviens quand il a introduit le loup dans la bergerie, Édouard de Rothschild, la confiance qu'il avait. Et j'ai l'impression que ça l'amusait tellement de faire rentrer le nom de Rothschild dans ce symbole du gauchisme 68-art qui était Libération. Il a dû se dire, ça passera ou ça cassera. Ça a cassé. J'ai eu l'impression qu'il partait sans regret.
Mais là, c'est la main qui le nourrissait, qui l'a mordu, pour le coup, avec Édouard de Rothschild.
Exactement, si on peut dire ça comme ça, oui.
Serge Julie a incarné Libération et l'a façonné au fur et à mesure de ses années à sa tête. Pas étonnant que l'accusation de trahison de la gauche qui pèse sur lui ait aussi pesé sur le journal, passé en 50 ans de Jean-Paul Sartre à Patrick Drahi, puis aujourd'hui à une nouvelle indépendance. Au milieu de cette histoire, il y a une relance ratée du quotidien avec le tristement célèbre Libé 3. Mais que s'est-il passé au juste? Qu'est-ce que l'évolution de Libé dit de l'évolution de la gauche en France? Nous en parlons tout de suite dans le dernier épisode.